Un grand merci, David, à toi pour cette lecture. Bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui sont chez eux, bonjour également à ceux qui sont en bas. On constate que la projection en bas commence à perdre sa couleur et tout est un peu sombre. Donc j'espère qu'on trouve de la couleur dans la lecture de la parole de Dieu si on ne le voit pas sur l'écran. On va peut-être essayer de régler ça dans les semaines qui viennent. Nous sommes dans cette dernière prédication dans cette série sur ces déclarations de Jésus. Ben nous l'a dit et c'est chouette donc pour nous de pouvoir prendre ce temps avec Jean chapitre 15 sous les yeux. Donc si vous avez cela dans votre propre Bible, merci d'ouvrir la Bible à Jean chapitre 15. Et puis maintenant je vais prier. Est-ce que le Seigneur nous aide à écouter sa parole aujourd'hui? Prions ensemble. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et nous te demandons donc, Seigneur, que nous soyons à l'écoute de tes paroles. Non seulement que nous entendons ce que tu nous dis, mais aussi que nous soyons ceux qui mettent en pratique ce que tu nous dis, que nous puissions être attaché à cette vigne qui est le Seigneur Jésus. Donc, glorifie ton nom, nous te prions, que nous soyons ici physiquement présents à l'Église, que nous soyons chez nous. Fais de nous tes disciples obéissants. Cela, nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, où est-ce que nous en sommes dans Jean chapitre 15? Ben, nous sommes en chemin, si nous avons suivi jusque-là l'évangile de Jean, en chemin avec Jésus vers le jardin de Gethsémané, là où Jésus va pleurer et Jésus sera tenté, mais Jésus tiendra bon pour lui-même subir la croix par la suite. Nous sommes après la trahison de Judas, Judas qui est sorti de la chambre haute, là où Jésus avait rassemblé ses disciples, et il est sorti pour pouvoir donc trahir son maître. Et par la suite, Jésus est en train d'enseigner les onze à suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Il est conscient qu'il est bientôt parti. Et donc, il profite de ce temps pour encourager les disciples de ce que c'est être un disciple une fois qu'ils soient partis. Ils sont en chemin. Si vous avez le chapitre 14 là sous les yeux, vous allez voir à la fin du chapitre 14 qu'il dit « Levez-vous, partons d'ici ». Donc, ils ne sont plus dans la chambre haute. Ils sont en chemin à l'est de Jérusalem vers Gethsémané. Et là, on suppose que Jésus se sait de ce qu'il voit autour de lui, des vignes. Et il illustre avec cette vigne quelque chose de super important au sujet de ce que c'est être un disciple. Et c'est une leçon donc que nous allons apprendre ensemble ce matin, qui se divise, que j'ai divisé pour nous en deux parties. La première partie, c'est plutôt au sujet de la personne de Jésus. Et la deuxième partie, c'est plutôt sur notre façon à nous, les disciples, de suivre Jésus. Alors voici la première partie. Jésus, croyez en lui. Autour de lui, le peuple de Dieu se compose. Jésus, croyez en lui. Autour de lui, le peuple de Dieu se compose. Commence avec cette partie-ci, car c'est indispensable pour pouvoir être un disciple. Il s'agit de choisir quel maître nous allons suivre. Si vous voulez suivre un cours sur un sujet ou un autre pour améliorer vos connaissances dans un domaine, cela va de soi qu'il vous faut un enseignant qui maîtrise la matière. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais prof. Peut-être vous avez fait l'expérience de cela à l'école ou à l'UNIF. Avoir un mauvais prof, c'est de ne rien apprendre. Pire, c'est de mal apprendre quelque chose. Donc, si vous devez choisir, par exemple, dans le domaine de l'énergie entre moi et Samuel Fulfari, responsable de l'Église ici, mais aussi maître, docteur en connaissance par rapport à l'énergie, j'espère que vous allez choisir Samuel et pas moi-même. D'ailleurs, Samuel a écrit un article dans la Libre Belgique cette semaine sur le nucléaire. Il s'y connaît. Donc, du coup, on va vers quelqu'un qui s'y connaît. Mais c'est le même pour le domaine spirituel. Cela devrait être le cas. Si vous voulez consacrer votre vie à suivre Jésus-Christ, il faut être sûr de qui il est. C'est évident, cela. Alors, quelles sont ses compétences? Depuis 6 semaines, nous étudions donc ces déclarations de Jésus lorsque Jésus dit « Je suis » suivi d'un complément de nom. Aujourd'hui, donc, c'est cette dernière déclaration. « Je suis la vraie vie ». Et lorsque Jésus dit « Je suis », il évoque le nom de Dieu. « Je suis qui je suis », tel que Dieu l'a révélé à Moïse dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Dieu s'est révélé à Moïse comme étant « Je suis celui qui suis ». L'Éternel, celui qui n'a pas de commencement, pas de fin, il est ce qu'il est. Et ce qu'il est, il le sera, il ne changera pas. Il se définit, ce Dieu, par ses propres actes. Vous me connaîtrez, il est en train de dire, à travers mes actes, ce que je suis ce que je suis, celui qui se révèle à vous. Donc Jésus est digne de notre confiance, car il est celui qui révèle Dieu. C'est ça ce qu'il réclame lorsqu'il dit je suis. Mais pourquoi il peut dire une telle chose? Parce qu'il vient de Dieu. Il est Dieu lui-même, en chair humaine. Ce récit, Jean 15, commence avec Jean chapitre 1. Et le premier verset donc, de l'évangile de Jean dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le prologue, l'introduction de cet évangile, termine au verset 18 du chapitre 1 en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Donc Jésus vient de Dieu, il est Dieu. Dieu, le Fils, qui révèle parfaitement Dieu le Père. Et nous dit-il, je suis la vraie vie. Jean chapitre 15. Alors, lorsque nous entendons l'adjectif vrai, cela sous-entend que d'autres ne le sont pas des vrais. Peut-être on croise quelqu'un qui dit, moi j'ai entendu d'un vrai expert en matière de virus. Quand on entend « vrai », cela, ça veut dire que les autres avis que d'autres sont en train de nous donner ne sont pas aussi fiables, parce qu'ici, nous avons affaire à un vrai expert. Alors, Jésus dit « je suis la vraie vigne ». Pourquoi? Car d'autres ne le sont pas. Et le contexte pour cela, c'est l'Ancien Testament, c'est ce que Benjamin nous a lu une partie de cela, il a fait ça pour le premier culte, mais il n'a pas fait ça pour le deuxième culte. Je vais vous lire cela. Car à plusieurs reprises, le peuple de Dieu est désigné par Dieu comme étant sa vigne, le peuple d'Israël. Une vigne qui était censée apporter du fruit. Mais chaque fois où Israël est désigné une vigne, on entend parler de son péché, de son mauvais fruit, de son manque de bons fruits. Et du coup, cela entraîne la colère de Dieu et également le jugement de Dieu. Israël n'a pas été la bonne vigne. Écoutons juste deux, trois versets d'Ésaïe, chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 5. Or donc, c'est le Seigneur qui parle, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture. Pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Oh, la vigne de l'Éternel, des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plante qu'il chérissait et il avait espéré la droiture. Et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Vous voyez, Israël n'a pas été la bonne vigne. Il y avait du mauvais fruit. Mais Jésus, chapitre 15, lui, il dit, je suis la vraie vigne. Là où Israël a échoué, Jésus, lui, a réussi. Là où Israël a désobéi à son Seigneur, Jésus, lui, a obéi. Verset 9 de notre texte, Jésus dit que le Père l'a aimé. Verset 10, il a gardé les commandements de son Père. Donc c'est lui la vie. Pour appartenir donc au peuple de Dieu, nous devons par conséquent être attachés à lui. Le vrai peuple de Dieu, vous voyez, se compose donc autour de lui, de Jésus, de lui seul, car lui seul vient de Dieu. Le peuple juif de l'époque de Jésus prenait pour acquis leur statut en tant que peuple de Dieu. Pour voir cela, c'est utile, je pense, de voir quelques versets du chapitre 8, là où il y a une discussion entre quelques personnes juives et Jésus. Verset 33 du chapitre 8, nous entendons Jésus, ces juifs qui disent, verset 33, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Verset 39, « Notre père, c'est Abraham. » Alors, « Si vous êtes Abraham, répond Jésus, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. » Ensuite, il dit, « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. » Plus tard, verset 53, « Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Et Jésus dit, verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Mais les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus l'a dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Donc, on voit leur réaction. Ils comprennent ce que Jésus est en train de dire. Et leur réaction, c'est de rejeter Jésus. Et en se faisant, mais quelle ironie, ils démontrent qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham, mais plutôt le fils du diable. Ils sont fiers de leur statut du peuple de Dieu, mais leur fierté et leur orgueil de rejeter Jésus démontrent qu'ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Oui, ils veulent que Jésus soit sous leur contrôle à eux, mais ils ne comprennent pas que pour appartenir à Dieu, ils doivent être sous son contrôle à lui. Ils doivent être attachés à lui, et ils ne le sont pas. Le fait qu'ils doivent être attachés à lui ne doit pas nous surprendre maintenant, le fait d'avoir étudié ces différentes déclarations de qui est Jésus. Je suis, on avait commencé avec ça, le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis, nous l'avons vu la semaine dernière, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, oui, du coup, aujourd'hui, on termine avec « Je suis la vie ». Mais bien sûr qu'il est la vie, la vraie vie. Dans cette métaphore que Jésus développe dans ces versets, il est la vigne et les disciples, ils sont les branches ou les sarments. Verset 5, c'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Pour avoir donc notre place parmi le peuple de Dieu, la vigne de Dieu, il faut donc être des sarments attachés à Jésus. Il faut donc se soumettre à Jésus, reconnaître qui est Jésus. Il faut croire alors en Jésus. Voyez-vous donc, il ne suffit pas d'être familier avec Jésus. Il ne suffit pas d'avoir du respect pour Jésus. Il ne suffit pas d'essayer de suivre l'exemple d'amour que Jésus nous a laissé. Il ne suffit pas d'avoir des amis chrétien. Il ne suffit pas d'avoir de la famille chrétienne. Il ne suffit pas de faire, d'un point de vue externe, des actes religieux quelconques. Prier, fréquenter une église, chanter, même jouer un rôle dans l'organisation de l'église. Non, il faut suivre Jésus, être attaché à Jésus, se soumettre à Jésus. Il faut voir que lui seul, il vient de Dieu. Lui seul peut nous mener à Dieu. Lui seul peut faire de nous des enfants de Dieu. Ne pas faire cela, c'est de se retrouver, selon la métaphore, retranché de la vigne, enlevé de la vigne. Selon l'explication que Jésus donne au verset 6, une telle personne est jetée dehors comme le sarment, et cette personne se dessèche. Ses sarments sont jetés au feu. Ils brûlent. Et cela signifie, nous le savons de par ces citations de l'Ancien Testament par rapport à la vigne, ça signifie qu'il tombe sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu. Le chapitre 8, verset 24, nous dit ceci. « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Rejeter Jésus, ne pas s'approcher de lui tel qu'il est, c'est de mourir dans nos péchés, de tomber sous le jugement juste de Dieu. Donc Jésus, croyez en lui, la première partie. Autour de lui, le peuple de Dieu se compose. Mais cette exhortation de réorienter notre vie autour de Jésus, d'être donc attaché au cep, à la vigne, nous aide à comprendre cette deuxième exhortation de ce que Jésus dit ici. Jésus demeurait en lui. En lui, le peuple de Dieu porte du fruit. Jésus demeurait en lui. En lui, le peuple de Dieu porte du fruit. Cette exhortation vient du verset 4 de notre texte. Demeurez en moi, comme moi en vous, tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Et ceci parfois fait penser à certains chrétiens que Jésus est en train de dire que c'est tout à fait possible donc pour des vrais chrétiens de ne plus demeurer en lui. Et du coup, cette exhortation de Jésus devient dans ce cas une liste de choses à faire pour ne pas perdre notre place dans le peuple de Dieu, ce qui peut troubler certaines personnes de conscience tendre, parce qu'ils se disent, alors ce n'est pas certain si j'appartiens oui ou non à Dieu, parce que ça dépend de ma performance, de ce que moi je dois faire pour demeurer en lui. Mais je pense que le contexte nous aide à comprendre que Jésus explique plutôt comment il se fait que certains qui avaient l'air de le suivre dans l'évangile de Jean jusque-là ne le sont pas des disciples authentiques pour du vrai. Que cela soit la foule à la fin du chapitre 2, peut-être vous vous souvenez de cette foule qui croyait en lui, mais Jésus ne leur faisait pas confiance. Que cela soit le peuple juif, ici au chapitre 8, les extraits que nous avons lus, qui rejettent Jésus. Que ce soit les chefs religieux du chapitre 9, qui n'acceptent pas que c'est Jésus qui a guéri cet homme aveugle. Que ce soit Judas, l'un des douze, qui est sorti au chapitre 13 de la chambre haute pour trahir Jésus. De telles personnes, toutes ces personnes, pour finir, ne sont pas attachées à la vigne, même si pendant un temps, ça paraissait être le cas. Et cela peut paraître encore le cas aujourd'hui pour certaines personnes. Certaines personnes qui ont une appartenance formelle, religieuse, disciplinée, mais pas pour finir attachées à Jésus. Parce que si nous sommes attachés à lui, nous porterons du fruit. Rejeter Jésus, c'est de ne pas être attaché à lui. Et ici, je pense qu'on touche donc les limites de cette métaphore. Qu'un vrai sarment, une vraie branche, est bien entendu attachée à la vigne, forcément. Mais Jésus donc parle d'un sarment, d'une branche qui, pour finir, ne l'est pas. Parce qu'il n'est pas attaché comme il le faut. Mais donc, quels sont les indices que nous demeurons en lui, attachés à cette vigne? Ces indices ne sont pas donc un examen où il faut avoir plus de 50% pour réussir. Non, ce sont des indices qui sont vrais pour tous ceux qui appartiennent réellement à Jésus. Ces indices peuvent donc fonctionner aussi pour nous encourager à rester bien attaché à Jésus. L'un des moyens que Dieu il utilise par sa grâce pour nous mener jusqu'au port. Car rappelons-nous de ce que Jésus a dit au chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ça, c'est une promesse pour tout disciple. C'est lui qui nous gardera. Mais l'un des moyens pour ce faire, c'est qu'il nous encourage à maintenir notre attachement à lui. Et donc, Jésus encourage les disciples ici, avec ses traits de ce que c'est être un disciple authentique. Car verset 3, il dit, « Vous, vous êtes déjà purs. » Donc, il ne s'agit pas de devenir chrétien en faisant ces choses. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Donc, ces traits qu'il va développer maintenant dressent un portrait de ce que c'est un disciple authentique. Trois traits pour nous ce matin, assez simples, que nous allons aborder pour cette deuxième partie. D'abord, l'obéissance à Jésus. L'obéissance à Jésus. Cela, nous le voyons au verset 10, n'est-ce pas? « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. » C'est très clair, n'est-ce pas? L'obéissance à Jésus est une partie non négociable pour le croyant en Christ. Jésus lui-même donne le modèle d'une telle obéissance. Verset 10, il dit « Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Donc face à un monde qui nie Jésus, qui préfère les ténèbres à la lumière, le chrétien authentique reconnaît la voix de Dieu dans les propos de Jésus et oriente sa vie autour de ce que Jésus il dit. Celui qui est de Dieu, nous avons prié tout au début, Jean 8, verset 47, Écoute les paroles de Dieu. Le premier réflexe tant d'un disciple, c'est de suivre son maître, c'est de lui obéir. Peut-être ici, on se souvient de la semence dans la parabole du semeur. La deuxième terre où la semence tombe, ce sont des endroits pierreux. Ils ont l'air de bien démarrer, selon l'explication de Jésus. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils ne persévèrent pas. Mais la troisième semence tombe parmi les épines. Et là, on entend que ce sont les soucis du monde et la séduction des richesses qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est possible, voyez-vous, d'être enthousiaste pendant un moment, de faire preuve d'une certaine adhésion et connaissance chrétienne, sans pour autant être clair et engagé dans notre esprit de suivre Jésus, quoi que cela nous coûte. Peu importe l'opposition, peu importe la tentation devant nous, peu importe la pression des autres autour de nous, le disciple authentique obéit à son maître. Oui, il ne le fera pas parfaitement, mais il le fera de manière fidèle à la longueur. C'est ça ce qui compte, parce que si nous nous souvenons de Jésus qui disait à la fin du serment sur la montagne, « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc il faut l'obéissance à Jésus. Mais ensuite Jésus précise quel est son commandement. Verset 12, que vous vous aimiez les uns les autres. Il répète cela au verset 17. Donc, il dit que nous devons donc lui obéir, et puis il précise en quel domaine il est en train de parler, que vous vous aimiez les uns des autres. Et de nouveau, il donne lui-même un exemple de cela. Comme je vous ai aimé. Alors, comment est-ce qu'il nous aimait? Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Ce que Jésus a fait en donnant sa vie pour ses disciples. Alors nous sommes également appelés à faire. Car nous ne sommes pas le seul sarment, la seule branche de la vigne. Il y en a d'autres, tout aussi dépendants de la vigne que moi. Et je ne peux pas ignorer ces autres sarments en pensant qu'il n'y a que moi. Lors de notre étude biblique sur ce texte, nous avons posé la question suivante il y a quelques semaines. L'amour pour d'autres disciples dans l'église locale est souvent très laborieux. Quelles sont les choses qui vous frustrent le plus chez d'autres croyants? Sans mentionner les noms. Alors, si vous êtes chez vous, vous pouvez dire ça à haute voix parce que vous n'allez offenser personne. Si vous êtes en bas dans la salle, je pense que c'est toujours pas super de mentionner les noms. Mais quelles sont donc les choses qui vous frustrent le plus chez d'autres croyants? Il y en a, n'est-ce pas? Ceux qui arrivent systématiquement en retard, ceux qui ont un regard peut-être un peu trop sérieux sur toute chose, ceux qui sont un peu pas suffisamment sérieux dans leur approche à la vie chrétienne, ceux qui sont trop bien habillés parce qu'ils se croient importants, ceux qui sont trop mal habillés parce qu'ils ne respectent pas suffisamment les autres, ceux qui sont difficiles à comprendre parce qu'ils parlent avec un accent que vous ne comprenez pas, ceux qui viennent d'une autre culture, de vous-même, et donc qui demandent plus d'énergie pour comprendre, ceux qui ont l'air d'avoir aucun intérêt en vous, et donc ils vous ignorent, ceux qui sont simplement trop immatures, trop bavards, trop arrogants, trop d'opinions sur trop de choses, et ainsi de suite. Aimer de telles personnes, ce n'est pas évident. En fait, c'est l'un des grands dangers de ce confinement, je dirais, pour nous en tant qu'Église. Parce que le fait de vivre un culte chez soi, c'est de nous habituer de ne pas devoir supporter une telle personne de notre église locale. C'est d'être content uniquement avec ma relation verticale, sans devoir se soucier de l'aspect horizontal de ma foi, mes relations avec les uns les autres. Mais un amour pour Jésus se traduit dans un amour pour les autres. Et Jésus, souvenons-nous, a donné sa vie pour toutes ces personnes difficiles, tout comme il a donné sa vie pour vous. Ses amis qui étaient de nature, ses ennemis, il ne faut pas oublier cela lorsque Jésus dit qu'il défait sa vie pour ses amis. Au début, ses amis ne l'étaient pas. Ils étaient ceux qui ont rejeté Jésus. Mais Jésus nous a tant aimés qu'il nous a fait de lui, de nous, ses amis. Donc, nous devons nous aimer les autres qui sont dans notre église locale, qui appartiennent aussi à la vie. L'église n'est pas donc composée et ne devrait jamais être composée de personnes qui me ressemblent. Non, l'église rassemble ceux qui ne me ressemblent pas. Et du coup, nous démontrons que nous faisons tous partie de cette même vie en aimant les uns les autres. Dans le premier trait d'une personne bien attachée à la vie, c'est l'obéissance à Jésus. C'est indispensable. Et oui, dans certaines circonstances, c'est un défi pour nous. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dur, ou c'est sec, c'est forcé. Non, cela nous mène à ce deuxième trait, c'est la reconnaissance à Jésus. D'abord, donc, l'obéissance à Jésus, et puis maintenant, la reconnaissance à Jésus, car le croyant obéit à Jésus à la lumière de l'amour de Christ. « Demeurez, dit-il au verset 9, dans mon amour. » Et son amour est comment ?« Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Arrêtons-nous juste pour un instant ici, car c'est magnifique ce que Jésus dit. Dieu le Père a aimé Dieu le Fils avant la création du monde, selon le chapitre 17 de cet évangile. Dieu, après tout, selon la première épître de Jean, est amour. Il a toujours eu de l'amour entre le Père et le Fils. « Tu es mon Fils bien-aimé », disait le Père lors du baptême de Jésus, « l'objet de toute mon affection ». Comme le Père, donc, m'a aimé, Jésus nous dit ici, moi aussi, je vous ai aimé. Nous sommes donc les bénéficiaires, rendez-vous compte de ceci, du même amour intime et éternel qu'il y a entre le Père et le Fils. Donc, pour nous, de nous soumettre à Jésus, ce n'est pas quelque chose de forcé, de dur, de sec. Pour obligation seule, non. Jésus, lui, n'est pas un fils sous le joug de son père qui doit obéir simplement par obligation de crainte de ne pas être accepté dans la famille. Peut-être vous connaissez des familles ou des fils pour qui c'est ça être un fils. Pour Jésus, ce n'était pas le cas. Il prend de la joie à se soumettre à son père. Verset 11. « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit complète en vous et que votre joie soit complète. » Donc, par son amour pour nous sommes reconnaissants envers lui et nous voyons son amour pour nous à l'œuvre dans le fait, verset 2 de notre texte, qu'il nous purifie en nous taillant pour que nous portions encore plus de fruits. Vous savez, un jour, j'ai essayé de tailler le pommier de mon beau-père, là où on habitait. On habitait dans sa maison, il n'était pas avec nous. Et je me suis dit, je vais rendre un service à mon beau-père en taillant ce pommier pour que cela porte plus de fruits. Il y avait trop de branches, etc. Mais au lieu de bien tailler, je l'ai massacré. Et malheureusement, avec une main trop sévère, j'ai pu donc tuer cet arbre qui n'a jamais par la suite porté du fruit. Je me souviens de mon épouse dans l'arrière-plan en train de me regarder de la fenêtre en disant « Steve, t'es sûr de ce que tu fais ?»« Oui, oui, pas de souci !» j'ai dit. Et je me suis trompé royalement et après je devais faire face à mon beau-père. Ce n'était pas facile. Jésus, lui, il taille de la bonne manière. Ce qu'il aime, il ne les détruit pas. Car rappelons-nous, il nous aime avec le même amour que le Père a aimé le Fils. Il se sert, oui, donc de l'une ou l'autre circonstance de notre vie pour nous rappeler de temps à autre de notre besoin de grandir en lui, de notre autosuffisance, de notre orgueil. Parfois, il fait ça via un frère ou une sœur qui nous dit quelque chose qui, sur le coup, touche un nerf. Peut-être on réagit mal aux premiers abords. Mais ensuite, on comprend que oui, il y avait du vrai dans ce qu'ils ont dit. Parfois, on fait ça nous-mêmes en voyant jusqu'à quel point notre approche n'a pas été sage. Jésus nous taille parce qu'il nous aime. Et cela donc ne remet pas en doute son amour, car le but de son amour pour nous, c'est notre joie complète. Nous sommes après tout ses amis et nous ne sommes pas ses esclaves, il le dit au verset 15, « parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » C'est ça la différence, n'est-ce pas, entre un esclave et un ami. Un esclave doit faire ce qu'il fait sans avoir le droit d'une explication. Il doit simplement obéir. Mais un ami, c'est quelqu'un en qui la personne se confie, explique. Oui, il continue à devoir faire ce que l'autre lui dit, mais il a droit à une explication. Alors Jésus nous révèle la volonté du Père. Nous sommes privilégiés, nous sommes donc ses amis dans ce sens-là. Pour ceux qui suivent le foot, vous allez peut-être savoir que Liverpool a gagné le championnat en Angleterre. Ils ont gagné facilement sous la guidance de leur entraîneur, un Allemand qui s'appelle Jürgen Klopp. Et ce qui m'a vraiment frappé avec cette équipe, cette année-ci, c'est d'un point de vue externe en tout cas, les joueurs apprécient, aimaient énormément cet entraîneur. Il reste le boss, c'est lui qu'il faut suivre, mais ces joueurs prenaient du plaisir à suivre Klopp parce qu'il les engageait un peu dans cet objectif de remporter le championnat. Se soumettre à notre maître, le Seigneur Jésus, n'est pas un fardeau, mais une joie. Et nous sommes reconnaissants envers lui. Et donc, cela nous mène à notre dernier trait, parce que si nous sommes obéissants à lui, reconnaissants envers lui, nous sommes également dépendants de lui. Dépendants, la dépendance envers Jésus d'un croyant. Verset 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Donc, prendre sa parole au sérieux et prier à la lumière de ce qu'il nous dit dans sa parole, non pas selon ce que moi je veux, mais selon ce que lui, il lui promet dans cela. Dans sa parole, alors cela portera du fruit. Cela vous arrivera, il nous dit. Donc, est-ce que dans la parole, je peux vous demander ceci, Jésus nous promet-il une vie sans difficulté, sans épreuve de santé pour ses disciples? Non, il ne nous dit jamais cela dans sa parole. Alors, lorsque nous prions, sommes-nous toujours en train de prier qu'il nous enlève de la difficulté dans laquelle on se trouve? Ou sommes-nous toujours en train de plaider qu'à travers cette épreuve, cette difficulté de santé, ce conflit au travail, à travers ces choses-là, je peux grandir dans la foi, je peux connaître sa présence et sa paix? des choses dont il nous a promis dans sa parole. Que je peux rester fidèle à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Que même si l'intention humaine de ce qui m'arrive, point de vue opposition, était mauvaise, je peux voir derrière la main souveraine et bonne de Dieu qu'il voulait cette chose pour mon bien, pour que je puisse grandir. Prier ainsi, selon le verset 16, c'est de demander en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Dépendre donc de Jésus exprime une vérité qui s'applique à toute une vie, pas simplement à notre vie de prière. On revient vers la métaphore de la vigne, n'est-ce pas? Elle nous rappelle, verset 4, que tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Le disciple de Jésus reconnaît cela, qu'il dépend de Christ pour porter du fruit. Il n'est pas confiant en lui-même. C'est ça ce qui le pousse à se mettre aux genoux, à prier le Père. Mais il y a deux façons de faire preuve d'orgueil, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ceux-là doivent se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. Mais il y a également l'orgueil de ceux qui font preuve de l'apitoiement de soi. Car dans les deux cas, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de dépendre de nous-mêmes. L'apitoiement de soi, de se dire « Oh non, je ne peux rien faire, je ne suis pas aussi bon que l'autre. Le Seigneur ne peut jamais m'utiliser, moi. » Non, pas besoin, vous voyez, d'être intimidé par ceux qui ont l'air super talentueux dans la vie chrétienne, pour que vous puissiez avancer aussi et porter du fruit. Pas besoin pour vous d'être quelqu'un qui a amené une cinquantaine de personnes à Christ pour que vous puissiez dire que vous portez du fruit. Pas besoin d'être quelqu'un qui a écrit 50 livres avant 50 ans pour pouvoir dire que le Seigneur vous utilise. Vous n'avez pas besoin non plus de dire que je n'ai jamais péché de manière honteuse et regrettable, que le Seigneur ne peut pas se servir de vous dans l'avenir. Pas besoin non plus d'être physiquement fort, de ne pas être sous une grande épreuve pour que le Seigneur puisse se servir de vous dans votre vie chrétienne. Non, chaque croyant authentique disciple de Jésus dépend de Jésus-Christ. Oui, dans la prière, mais dans la vie de manière générale, pour porter du fruit. C'est indispensable. Donc, nous avons vu qu'un trait d'un disciple authentique, c'est l'obéissance à Jésus. C'est également la reconnaissance envers Jésus. Et ensuite, c'est la dépendance envers Jésus. Après tout, verset 16, et on termine avec ça. Nous voyons que Jésus sait ce qu'il fait. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, il dit. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors je vais prier, chers amis, pour terminer. Seigneur, nous te louons pour ce que nous avons pu voir ensemble. Nous te louons pour Jésus, la vraie vigne, qu'en étant attachés à lui, nous puissions connaître notre place en tant qu'enfants de Dieu, membres du peuple de Dieu. Et nous te prions, Seigneur, que nous sommes encore ceux qui demeurent en lui, qui portent du fruit, qui sont obéissants, reconnaissants, dépendants de toi en toutes choses. Donc aide-nous, Seigneur, à sortir de là où nous sommes, encouragés par toi aujourd'hui. Aide-nous à voir ta main à l'œuvre dans notre vie pour que nous puissions grandir en toi. Que cela, Seigneur, soit pour ta seule gloire, nous te prions. Amen. Je cède ma